en novembre 1884, un événement historique allait changer le destin de l'Afrique à tout jamais. Cette réunion diplomatique, connue sous le nom de Conférence de Berlin, allait déclencher une fièvre de conquête surnommée la course au clocher, où les grandes puissances impériales telles que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie se lancent dans une danse coloniale effrénée pour s'approprier les richesses et les territoires africains. Mais tout avait commencé bien des années auparavant, en 1869, avec l'inauguration majestueuse du canal de Suez. Cette voie maritime offrait à la corne de l'Afrique une position stratégique enviable, attirant toutes les ambitions impériales vers cette région convoitée. Un territoire à conquérir à tout prix. C'est à ce moment-là que l'Italie, un royaume tardivement unifié, entre dans la course. Malgré la présence établie des grandes puissances comme la Grande-Bretagne et la France avec leurs colonies bien établies, l'Italie n'allait pas se laisser distancer. En 1871, l'Italie se lance avec détermination dans cette compétition, devenant ainsi une force montante sur l'échiquier colonial. Ses yeux se fixent sur l'Afrique de l'Est avec un objectif précis, l'Érythrée, cette terre riche et stratégique au nord de l'Éthiopie. Les enjeux sont élevés, l'horloge tourne et l'histoire s'écrit au rythme des conquêtes coloniales. Les dirigeants italiens envisagent dès lors à la conquête de l'Éthiopie, dont les hauts plateaux fertiles se trouvent aux frontières de leur colonie semi-désertique. Mais l'Éthiopie présente une particularité. Elle est le seul pays africain à ne jamais avoir subi les brutalités de la colonisation. Une indépendance préservée grâce à un homme qui allait changer le cours de l'histoire dans ce coin du monde, l'empereur Ménélique II. Au cœur de la tourmente coloniale, il se révèle être une figure charismatique et visionnaire déterminée à défendre son empire contre l'invasion étrangère. Surnommé le père de l'Éthiopie moderne, il devient l'un des plus grands empereurs et l'une des plus grandes figures du 19e siècle africain. Mais comment Ménélique II a-t-il réussi cet exploit? Pourquoi l'Éthiopie, parmi les 54 États actuels d'Afrique, est-elle le seul pays à ne jamais avoir été colonisé? C'est ce que nous allons découvrir dans cette histoire à couper le souffle, au cœur des batailles stratégiques, des alliances complexes et des rebondissements inattendus. Explorons ensemble comment Ménélique II, avec audace et ingéniosité, a défié les attentes et résisté à l'envahisseur pour protéger son peuple de l'assaut colonial. Il était une fois, dans le royaume envoûtant de Kowa en Éthiopie, un jeune garçon du nom de Saleh Mariam qui allait devenir l'illustre Ménélique II. Né le 17 août 1844 à Ankober, dans le royaume de Kowa en Éthiopie, sa naissance est marquée par une histoire fascinante. Ses parents, le prince Haïlé Meleko, futur roi de Kowa, et Wazero Adiamo, une servante du palais, n'étaient pas mariés. Mais cela n'empêchera pas son grand-père, Saleh Selassie, de le reconnaître comme son légitime héritier. D'ailleurs, le vieux roi avait prédit que Ménélique II serait un grand homme qui rétablirait la grandeur de l'empire éthiopien. Pourtant, la destinée de Ménélique II n'était pas préméditée. À cette époque, l'Éthiopie était plongée dans des guerres et des conflits internes et le pays manquait d'une autorité forte et centralisée. L'avenir de la nation était incertain. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, le royaume de Kowa est envahi par des troupes dirigées par le redoutable empereur Théodros II et son père Haïlé Meleko meurt durant l'expédition. Ménélique, sa mère et des nobles du royaume de Kowa sont alors emmenés en exil à Magdala. À seulement 11 ans, Ménélique se retrouve captif dans cette forteresse perchée au sommet des montagnes, loin de sa terre natale. Pourtant, la vie réserve à Ménélique une chance inattendue. Son tuteur, Ato Nedao, veillera à son éducation et lui enseigne les arts martiaux et la politique tout en vivant à la cour de l'empereur éthiopien Théodros II qui se passionnait pour son apprentissage. Ménélique sera même élevé au rang de Déjasmak ou général, et épousera la princesse Altache Théodros, fille de l'empereur Théodros II. Cependant, en observant les efforts de Théodros pour moderniser l'empire, Ménélik commence à percevoir certaines erreurs de l'empereur, notamment ses relations tendues avec les musulmans qui causaient des troubles dans certaines régions de l'empire. La chance tourne définitivement en faveur de Ménélik lorsque son oncle Haïlé Mikaël est nommé Miridasnak, ou général de l'armée de réserve de Kowa par Théodros II. Mais les choses se compliquent lorsque Haïlé Mikaël se révolte contre l'empereur et sera remplacé par Ato Bezabe, qui n'est pourtant pas de la famille royale. Lorsque ce dernier se rebelle à son tour, Ménélik et sa famille décident de planifier leur évasion de Magdala. Après avoir été retenu captif par Théodros II pendant 10 longues années, Ménélik pense qu'il était temps de réclamer ce qui lui appartenait de droit. En juillet 1865, âgé de 21 ans, il se lance dans une évasion audacieuse et réussit à s'échapper avec l'aide précieuse de Muhammad Ali et de la reine du Welo Workitu, ennemi farouche de Théodros II. L'empereur Théodros, fou de rage, réagit de manière brutale, causant la mort de nombreux innocents. Cependant, Ménélik était un jeune homme fort, courageux et déterminé à récupérer le trône de Kowa qui lui revenait légitimement. De retour à Kowa, Ménélik doit faire face à Ato Bezabe qui règne alors sur la province. Ce dernier tente de rassembler une armée contre lui, cherchant même une alliance auprès de Workitu en faisant des fausses promesses. Mais Ménélik remporte une victoire décisive lors de la bataille de Kewet. La plupart des soldats se rallient à lui, tandis que Ato Bezabe va s'exiler hors du royaume. Dans la foulée et avec le soutien écrasant du public, Ménélik se proclame Négus ou roi du royaume de Kowa. Mesurant 1m80, Ménélik avait une allure imposante, avec un teint foncé et des dents blanches éclatantes. Bien que la variole ait laissé des traces sur son visage, rien ne pouvait éclipser la détermination et la grandeur de cet homme destiné à marquer l'histoire de l'Éthiopie. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Après la mort de l'empereur Théodros II en avril 1868, Ménélik envisage sérieusement de prétendre au trône impérial. Il se révèle comme un fin diplomate, impressionnant les émissaires étrangers qui visitaient sa cour. Avec leur aide, il se procure même des armes à feu modernes pour équiper ses armées et garnisons. Sous sa direction, l'Empire continue de s'agrandir et dispose d'une armée redoutable. Mais Ménélik II n'était pas le seul dans cette quête au trône, car deux autres prétendants, Tekle Georgis II et Ioannes IV, se dressent sur son chemin. Conscient des risques, Ménélik décide de faire preuve de prudence et d'éviter une confrontation directe avec Ioannes IV, qui avait remporté une victoire décisive contre Tekle Georgis II. Il se concentre alors sur l'administration de Kowa, ayant trois objectifs en tête. Étendre son territoire, se défendre contre le colonialisme et moderniser le royaume. Avec détermination, il annexe de nouveaux territoires, incorporant les provinces d'Arusi, Harer, Jima et Kefa, ainsi que plusieurs royaumes et états du sud de l'Éthiopie. Ménélik II bâtit une force armée moderne et puissante pour soutenir ses projets impériaux. Le destin intervient en mars 1889, lors de la bataille de Galaba contre le Soudan mahdiste, où l'empereur Ioannes IV trouvera la mort. Pour Ménélik, c'est enfin l'opportunité tant attendue de revendiquer le trône impérial. Mais il doit affronter la concurrence du ras Mengesa Ioannes, fils et héritier du défunt Ioannes IV. Porté par le soutien massif de la noblesse éthiopienne, Ménélik agit très rapidement et sera couronné Négus Négaste, ou roi des rois, c'est-à-dire empereur, le 3 novembre 1889. Une cérémonie grandiose et éblouissante aura lieu devant une foule immense de clercs et de dignitaires. Ce jour-là, l'homme baptisé sous le nom de Salé Mariam prend officiellement le nom d'empereur Ménélik II en hommage à son légendaire ancêtre, l'empereur Ménélik Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, Makeda. Selon la tradition éthiopienne, Ménélik Ier aurait été le premier souverain de l'Éthiopie vivant au 10e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce n'était pas tout. Sa femme, Tetu Betul, qu'il avait épousée à la messe de Pâques à 1883, sera aussi couronnée impératrice juste 2 jours après Ménélique. Un nouveau chapitre commence pour l'Éthiopie sous le règne de Ménélique II et Taïtou, un couple impérial plein de promesses et de défis. Dès le début de son règne, Ménélique adopte une approche conciliante et généreuse envers ses adversaires. Il collabore pacifiquement avec l'administration déjà en place à Kowa et privilégie le dialogue pour éviter les conflits internes. Il abolit des réformes antérieures et respecte la tolérance religieuse envers les musulmans et les animistes. Ménélique II voulait gouverner avec sagesse et harmonie, unifiant l'Éthiopie autour d'une vision pacifique et du respect mutuel entre les différentes communautés. Cependant, son règne commence à un moment délicat car les Italiens s'étaient déjà installés le long de la côte de la mer Rouge, créant une colonie en Érythrée. Un traité signé le 2 mai 1889 sème les graines de la discorde. C'est le fameux traité de Ouchale. Dans ce traité, Ménélique II avait accepté de céder la province de l'Érythrée à l'Italie dans un accord de paix perpétuel et d'amitié. Mais il y a un problème. Ce traité est rédigé en 2 langues, l'amharique, la langue éthiopienne, et l'italien, ce qui créera une confusion majeure. En effet, l'article 17 du traité, dans sa version italienne, stipule que Ménélique II accepte de faire de l'Éthiopie un protectorat de l'Italie, alors que la version amharique affirme le maintien de l'indépendance du pays. Lorsque Ménélique découvre cette manœuvre sournoise des Italiens, il est dans une colère noire, se sentant trahi et manipulé. Bien que Ménélique avait initialement accepté un prêt de 4 millions de francs des Italiens, il comprend rapidement les véritables intentions derrière ce traité. Lorsqu'il rembourse l'emprunt, il saisit l'occasion pour dénoncer officiellement le traité de Ouchale le 12 février 1893. Ménélique lance alors un vibrant appel à la nation éthiopienne, exhortant chaque citoyen à se mobiliser pour protéger leur pays de toute tentative d'invasion. Pendant ce temps, les Italiens tentent de séduire Ménélique en lui offrant un cadeau de 2 millions de cartouches pour qu'il accepte l'annexion de l'Éthiopie. Mais Ménélique ne se laissera pas tromper. Avec une détermination sans faille, il rejette leur offre, affirmant même qu'il ne permettrait jamais à des puissances étrangères de diviser et partager l'Afrique. Les Italiens, conscients de l'ampleur du défi, tentent de semer la discorde en proposant une alliance avec le roi du royaume de Tigré, Mengesa Yohannes. Cependant, ce dernier comprend l'importance de l'indépendance de l'Éthiopie et refuse de devenir une marionnette entre leurs mains. Le moment de vérité arrive lorsque le gouverneur de l'Érythrée, Oreste Baratieri, soutenu par le gouvernement italien, reçoit un dernier message exigeant une victoire authentique, c'est-à-dire sans équivoque. C'est au début de l'année 1895 que tout bascule pour Ménélique II et son royaume éthiopien. L'Italie décide de déclencher une guerre contre l'Éthiopie, certaine que sa force militaire lui assurera la victoire. Les premiers affrontements sont remportés par les Italiens, mais Ménélique, malgré les épreuves de la famine et des épidémies, rassemble une imposante armée en lançant un vibrant appel à la nation. D'ailleurs, avec une passion débordante, il déclare: nos ennemis ont commencé l'affaire en avançant et en creusant dans le pays comme des taupes. Avec l'aide de Dieu, je ne leur livrerai pas mon pays. Aujourd'hui, vous qui êtes forts, donnez-moi votre force. Et vous qui êtes faibles, aidez-moi par vos prières. En décembre 1895 et janvier 1896, l'Éthiopie inflige 2 défaites retentissantes aux Italiens lors des batailles d'Amba Aladji et de Mekele. Les Italiens, acculés, se replient sur le village d'Adoua où se prépare l'affrontement décisif qui scelle à jamais le destin de l'Éthiopie. L'Italie, persuadée de diviser pour mieux régner, espérait que certains rivaux de l'empereur Ménélique allaient se rallier à leur campagne contre lui. Mais, à leur grande surprise, tous les prétendants adverses de Ménélique se précipiteront pour le soutenir. En effet, loin de se laisser diviser, les Éthiopiens avaient choisi de mettre de côté leur querelle passée et de se dresser ensemble pour défendre leur indépendance contre l'invasion européenne. Leur liberté était en jeu et ils étaient déterminés à tout donner pour la protéger. La bataille d'Adoua approche et le destin est scellé. Ce jour-là, c'était une fête pour l'église éthiopienne à Aksum et le gouverneur italien de l'époque, Oreste Baratieri, pensait que beaucoup de guerriers seraient occupés par les rites religieux. Mais il ne pouvait pas se tromper davantage. En effet, Menelik II avait déjà mobilisé une armée de 70 000 hommes équipés jusqu'aux dents et débordant de patriotisme. La bataille d'Adwa fut épique, une lutte acharnée pour la survie et la liberté. Dans cette nuit sombre du 1er mars 1896, les Éthiopiens s'unissent comme un seul homme, déjouant les plans italiens. Menelik II, avec courage et bravoure, affronte les forces italiennes tout aussi puissamment armées. Dans un éclat de force, il écrase des Italiens qui perdront plus de la moitié de leurs effectifs. Cette bataille épique durera toute la journée et les Italiens, subissant de lourdes pertes, seront contraints de se retirer du territoire éthiopien. Menelik II parvient même à capturer plus de 1000 soldats italiens, utilisant leur libération comme levier pour réouvrir les négociations sur le traité. C'était un véritable désastre pour les Italiens. Mais mention spéciale à l'un des plus grands artisans de cette victoire à Adwa, le prince éthiopien, le Ras Mekonnen, qui se révélera être un formidable général. Adwa résonne comme un coup de tonnerre en Europe. La défaite italienne est totale et l'Éthiopie se forge une reconnaissance internationale grâce à cette victoire historique. Les Italiens sont contraints de signer le traité d'Addis Abeba le 26 octobre 1896, reconnaissant l'indépendance éthiopienne et annulant le traité de Wuchale. Cette fois, le traité est rédigé en amharique et en français pour éviter tout malentendu. En revanche, sa province érythréenne restait sous souveraineté italienne. Après Adwa, Menelik II commence à s'attaquer aux problèmes internes de son royaume. Pour mettre fin à la traite des esclaves, il mène une répression active, détruisant les marchés d'esclaves et punissant les trafiquants, ce qui était loin d'être une chose facile pour lui. Aussi, Menelik II était passionné par la modernité et comme son prédécesseur Théodros II, il avait un fort désir d'introduire les avancées technologiques et administratives occidentales en Éthiopie, tout en restant profondément attaché aux traditions éthiopiennes. Pour préparer l'Éthiopie au nouveau siècle, il entreprend une série de réformes économiques, politiques et sociales. Des écoles publiques et des hôpitaux ont vu le jour et les produits éthiopiens ont fait leur apparition dans la nouvelle capitale qu'il a fondée en 1886, Addis Abeba. Cette ville est un mélange séduisant, avec sa position centrale, son ciel lumineux et ses charmants boisements d'eucalyptus. En amharique, son nom signifie « nouvelle fleur » et c'est véritablement sous son règne que l'Éthiopie a fleuri et prospéré. Un des accomplissements remarquables de Menelik sera la création d'un chemin de fer reliant Addis Abeba à Djibouti, offrant ainsi un accès au littoral. Grâce à cette victoire ferrée, de nouveaux marchés se sont ouverts, contribuant à renforcer l'intégrité nationale de l'Empire. Cependant, le projet est bloqué avec indignation lorsque l'empereur découvre que la compagnie privée à qui il avait donné sa confiance avait vendu ses droits à un gouvernement étranger. Toutefois, derrière chaque grand homme se trouve une grande dame, l'impératrice Taïtou, dont on avait parlé précédemment, femme éduquée et intelligente, soutient pleinement Menelik dans ses batailles et ses réformes. Elle a aussi joué un rôle clé dans le choix de l'emplacement de la nouvelle capitale, Addis Abeba, et a poussé son mari à encourager l'éducation pour tous, garçons et filles. Elle s'implique aussi fortement dans la politique, ce qui lui donne le mérite de s'impliquer dans un milieu impérial essentiellement réservé aux hommes. En 1906, deux événements majeurs surgissent, annonçant la fin du règne de Menelik II. Tout d'abord, il est frappé par une attaque cérébrale, puis par la mort de son cousin, Ras Mekonnen, qui était l'artisan de la diplomatie impériale. La santé de l'empereur s'affaiblit de jour en jour, jusqu'à ce qu'il rende finalement son dernier souffle le 12 décembre 1913 à l'âge de 69 ans à Addis Abeba. Iyasu, son petit-fils, revendique alors le trône en se basant sur l'ancienneté. Cependant, des rumeurs circulent sur le fait que Iyasu se serait converti secrètement à l'islam, la religion de ses ancêtres paternels. Apparemment, une telle accession au trône aurait eu des répercussions profondes pour l'Éthiopie. Ainsi, Iyasu ne sera jamais couronné et son règne tumultueux prendra fin avec sa destitution. C'est alors la fille de Ménélik, Zaoudite, qui sera proclamée impératrice avec pour régent et héritier du trône le Rastafari Mekonnen. Cependant, les choses ne sont pas si simples car Zaoudite n'avait pas de descendants survivants et les aristocrates voyaient en son mari et sa famille une opportunité de prendre son pouvoir. Bien que Zaoudite jouait un rôle cérémoniel et exerçait certains pouvoirs d'influence morale, la véritable souveraineté reposait entre les mains du régent Rastafari Mekonnen qui deviendra plus tard l'empereur Haïlé Selassie. Ménélik II laissera un héritage remarquable pour l'Éthiopie. C'était un vrai leader moderne, visionnaire qui rêvait d'un pays moderne et prospère. Sous son règne, l'Éthiopie s'est modernisée avec l'abolition de l'esclavage, l'instauration de l'enseignement obligatoire et l'enseignement d'un code de droit moderne. Sa détermination et sa résilience ont également permis à l'Éthiopie de résister à l'invasion coloniale. Grâce à sa victoire éclatante à la bataille d'Adoua contre l'armée italienne, Ménélik II est devenu un symbole de libération pour toute l'Afrique. D'ailleurs, les couleurs du drapeau de l'Éthiopie ont été choisies avec soin pour leur symbolisme puissant. Le vert représente l'espoir, la fertilité des terres et l'harmonie. Le jaune évoque la paix, la justice, la lumière et le soleil. Quant au rouge, il symbolise le courage et le sacrifice du peuple éthiopien pour défendre sa liberté et son territoire. Ces couleurs fortes et porteuses d'un puissant symbolisme ont également été adoptées par 12 autres pays africains, car la victoire de Ménélik a marqué l'histoire du continent tout entier. C'est ainsi que se termine notre voyage à travers l'histoire fascinante de Ménélik II. N'oublions jamais que notre histoire est un précieux héritage, un guide pour l'avenir. Elle nous rappelle d'où nous venons et nous inspire pour aller de l'avant. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.